Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous avec toute l'équipe, Émilie, Marion, Pierre et Patrick.
Bonsoir, Babette.
Bonsoir, salut à tous les quatre. À la une ce soir, les présidents en maillot de bain.
Brégançon, un lieu incontournable pour tous les présidents depuis le général de Gaulle.
Est-ce que tu sais qui habite là-haut ?
Le président.
Georges Pompidou et son épouse ont été les premiers à y séjourner. Autre style présidentiel, Valéry Giscard d'Estaing qui s'affiche en chef d'État moderne. À son arrivée, il conduit lui-même sa déesse et en contrebas du fort, les paparazzi le verront se baigner avec son épouse. Mais le plus à l'aise à Brégançon aura été Jacques Chirac. En polo et Bermuda, il y a multiplié les séjours.
Le fort de Brégançon, un lieu idéal pour président en quête de calme et de repos. Pourtant, de Gaulle n'y a passé qu'une seule nuit à se faire dévorer par les moustiques. Il a détesté cet endroit peu fréquenté par ses successeurs. Emmanuel Macron est le premier à vraiment aller au fort. Véritable Élysée sur Méditerranée pour des vacances résolument studieuses. Signe d'un changement d'époque qui tolère moins qu'un chef d'État souffle comme un Français normal. Pierrick Jay décrypte dans un livre l'évolution des étés de nos présidents. Il est notre invité ce soir, aux côtés de l'éditorialiste Christophe Barbier. À la une également ce soir, Nicolas Sarkozy et François Hollande, à nouveau candidats.
Dans ces circonstances exceptionnelles, j'ai la grande joie de vous annoncer mon retour. Voilà.
Au cinéma.
Hein?
Votre retour au cinéma, Nicolas.
C'est pas le concours de la petite blague, François.
Non, mais c'est pas la petite blague, mais c'est votre retour au cinéma, oui, dans un film.
Souffrez de m'entendre.
Ben, je vous entends, je souffre, mais oui. Dites-le, c'est votre retour
au
cinéma.
Généralement, je fais ce que je dis,
non,
juste ce
pas
que
dit.
Je fais.
Non, vous l'avez dit.
Vous n'êtes pas mon professeur, je suis pas votre élève.
Vous n'allez pas me dire qui je suis ou qui je... Vous n'avez pas dit.
Je l'ai dit, c'est un mensonge.
Cinéma,
c'est un mensonge.
Dans une
c'est
fiction.
Une calomnie.
Vous ne l'avez pas dit.
Calomniateur.
Nicolas, vous ne l'avez pas dit.
Je sais ce que...
Vous ne l'avez pas dit. Votre retour au cinéma.
Toute ressemblance avec des personnes existantes n'est purement pas fortuite, prévient avec malice la réalisatrice Anne Fontaine. Quand elle imagine l'alliance insolite de deux anciens rivaux pour mieux faire barrage à Marine Le Pen, Jean Dujardin incarne un Nicolas Sarkozy qui mesure 1m82, Grégory Gadebois, un François Hollande qui pique de très grosses colères. Ils sont exceptionnels, autant que Doria Tillier et Pascal Arbillot qui incarnent leur compagne. Ils seront tous les quatre dans un instant sur notre plateau. Dans C'est à vous ce soir, on garde la forme. Bon, les garçons, j'ai remarqué qu'il y a eu un peu d'embonpoint. Ouais. Donc, il faut être en forme pour l'été. On va vérifier ça tout de suite. 30 secondes de chaise, c'est parti. Yeah. Allez, on tient, un peu de nerf.
Ah, c'est dur. Hein.
Ah,
ça va, Pierre? Tu tiendras le coup?
Je crois pas.
Indispensable d'être en forme pour recevoir Linda Hardy et Marie Drucker, qui publient toutes les deux un guide de bien-être. Elles sont nos invitées de la suite. Aux côtés de l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui rend hommage à ces femmes qui ont réveillé la France. Rendez-vous juste après 20h. Christian Duplessis, qu'offrez-vous à dîner à nos invités? Un menu bien-être?
Alors ce soir, pour être en forme, je vais vous proposer une petite noisette de cochon de l'ami Eric Hospital. Et on va la servir en sucré salé avec quelques pommes caramélisées.
Oh.
Voilà.
Ah oui, on voit un gros plan aérien sur la noisette. C'est magnifique. Merci beaucoup, cher Christian. À tout à l'heure. Bonsoir, Christophe Barbier.
Bonsoir à tous.
Merci de votre présence ce soir à vos côtés. Pierrick Jay, à l'occasion de votre ouvrage, L'Élysée à la plage, dans l'intimité de nos présidents en vacances, dans lequel vous décryptez l'évolution des étés des présidents et ce qu'ils disent d'eux. Un ouvrage qui pose d'emblée un constat simple. Avant, un président pouvait prendre des vacances comme tout le monde. Un mois et demi de vacances pour Georges Pompidou.
Un mois et demi de vacances, il partait à peu près du 14 juillet, après la fête nationale, jusqu'à la rentrée parlementaire, début septembre. Et il changeait de lieu de vacances trois fois pendant ce mois et demi. Il passait de Brégançon à la Bretagne, à sa petite bergerie à lui aussi, à Cajarc, où il menait une vie un peu à la Marie-Antoinette, avec ses moutons, avec Claude Pompidou, qui faisait du cheval. Et donc, c'était un mois et demi de vacances. Valéry Giscard d'Estaing prenait aussi pas mal de vacances. Puis maintenant, François Hollande prenait 4 jours, 3 jours de vacances tout au plus.
Ça lui a été reproché, on lui a dit qu'il en prenait trop.
On lui a dit, premier été, il a pris 2 semaines de vacances et on lui a reproché d'en prendre trop. Alors qu'avant lui, c'est celui qui en a pris le moins. Avant lui, Jacques Chirac ou même Nicolas Sarkozy prenaient à peu près 3 semaines. Emmanuel Macron, lui, part 3 semaines aussi, mais finalement, il continue de travailler. Il fait juste du télétravail à Brégançon, si je puis dire.
Et ses journées à Brégançon ressemblent à celles qu'il mène à l'Élysée. Ouais. Il se lève tôt, il passe des coups de fil, il fait même des voyages officiels. Un président aujourd'hui ne doit plus prendre de vacances, ça n'est plus possible pour les Français.
On est président 24 heures sur 24. Donc les crises peuvent vous rattraper n'importe quand, le jour, la nuit, l'été, l'hiver. Donc il n'y a pas de vacances présidentielles. Sinon, il y a une vacance de la présidence. Et ça, c'est un problème politique. Il se passe beaucoup de choses l'été. Hein. L'invasion du Koweït, 2 août 90. Le coup d'État en Russie, un 24 août ou un 21 août.
La canicule en 2003. La canicule en 2003. Jacques Chirac était au Canada.
Exactement. On a souvent des exemples comme ça où le pouvoir semble vous donner l'impression qu'il se détend. Et en fait, il se relâche. Et c'est souvent une faute politique. Le krach financier, pareil, en août 2008. Donc vous voyez, le président ne peut pas prendre vacances.
Valéry Giscard d'Estaing partait faire des safaris en Afrique et il ne voulait aucune nouvelle de l'Élysée jusqu'à ce que...
Bientôt la clé des champs pour Valéry Giscard d'Estaing, ou plutôt la clé des savanes, car dans quelques heures commencent pour lui les vacances. Les vacances, il achève sa visite au Gabon, une frontière à traverser, et il sera au Zaïre. Au Zaïre, croit-on savoir, comme disent les journalistes pudiques, car en fait Valéry Giscard d'Estaing n'a pas donné de précision réelle sur ses vacances. Si safari il y a, il aura lieu dans les forêts africaines, loin des regards indiscrets.
Loin des regards indistraits. Autant il aimait qu'on le suive sur les pistes à Courchevel ou à la plage dans le Var, mais en Afrique, non. Il ne voulait pas d'image.
Voilà, Valéry Giscard d'Estaing, souvent, il profitait d'un voyage officiel mi-juillet en Afrique pour après se faire une petite semaine de safari où il ne voulait aucune nouvelle de l'Élysée, aucun conseiller avec lui. C'était vraiment, il coupait des affaires de l'État. Et contrairement à d'autres vacances, comme à Brégançon, où par exemple, il accueillait tous les journalistes, il se laissait filmer en maillot de bain, en train de faire des brasses dans la Méditerranée, ou aussi pendant des vacances d'hiver, où à Courchevel, on le voit très sportif, en train de descendre les pistes, parce que Valéry Giscard d'Estaing, en fait, il voulait montrer qu'il était un président jeune, moderne, en bonne santé, contrairement à Pompidou avant lui. Et donc, il avait besoin de ce moment-là, de ses vacances, pour prouver ça. C'était un moment assez particulier pour la communication présidentielle.
Un safari présidentiel, c'est inimaginable aujourd'hui.
Aujourd'hui, mais toutes ces vacances-là, qui sont des vacances un peu honteuses quand même, c'est plus possible aujourd'hui. Plus proche de nous, celle de Jacques Chirac dans son palace à l'île Maurice, ça serait aujourd'hui absolument indéfendable. Il y aurait un scandale immédiat vu les sommes dépensées.
460 000 francs pour 3 semaines.
Exactement, c'est énorme. Plus le fait de faire ça aux frais du contribuable, d'y mêler des affaires de vie privée, ça serait aujourd'hui absolument intenable. Et puis pour le Giscard sportif, ce qu'on reproche aujourd'hui à un Poutine de se montrer tout muscle dehors en train de chasser le tigre, ben on ne le reprochait pas à l'époque à notre président. Bon, le ski, ça n'a pas porté bonheur non plus à Emmanuel Macron. En plein week-end de gilets jaunes, seule après-midi au ski lui a coûté cher dans les sondages.
Oui, c'est intéressant de revenir sur cet été 2003, l'été de canicule. Moi, c'est les vacances présidentielles qui m'ont le plus marqué puisque Jacques Chirac était allé prendre de fraîche chez un ami milliardaire canadien, mais il ne se contentait pas d'être loin et à l'étranger, il était aussi injoignable, invisible. Il n'y a aucune image de ses vacances et il n'a pas eu un mot de réaction ou de compassion pendant 3 ou 4 semaines, pendant que des milliers de vieux mouraient dans les hospices et les maisons de retraite. Qu'est-ce qui ne serait plus possible aujourd'hui, les deux, c'est-à-dire à la fois l'étranger ou le fait de ne pas se montrer régulièrement ou de ne pas avoir de mots de réaction?
Les deux. D'abord, être coupé de l'information. Aujourd'hui, les systèmes autour des présidents, à la demande des présidents qui ont compris qu'un quart d'heure de retard sur Twitter pour réagir, ça crée un problème politique, les présidents demandent à être informés, les premiers à être informés en permanence. Et donc, ça pose un problème quand il y a un délai, une carence. Par ailleurs, le lieu de la présidence, de la vacance présidentielle, est devenu un sujet politique. On a bien vu que pendant l'année d'épidémie, le premier déconfinement, consigne a été donnée, ne partez pas de France. Les touristes français ne peuvent pas partir à l'étranger. Les Français sont confinés dans leur pays pour les vacances. Vous, ministre,
vous donnez l'exemple.
Même exemple.
Emmanuel Macron, pour revenir à notre président actuel, ses premières vacances, il les a passées à Marseille, donc en toute discrétion, mais une photo a fuité. Les vacances des présidents, ça traduit leur façon de faire de la politique, Christophe?
Oui, leur façon de montrer aux Français qu'ils sont comme eux, mais pas tout à fait comme eux. Quand François Hollande est parti en 2012 pour ce premier été, il voulait, après un quinquennat de stress avec Sarkozy, être le président normal. Le président normal, il était en Bermuda, à prendre des vacances un peu longues, alors qu'à ce moment-là, la crise économique faisait quand même rage et il préparait, lui, un choc fiscal pour la rentrée. C'était une erreur politique.
C'est ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy, ses premières vacances jugées trop bling-bling.
Vacances de milliardaires versus François Hollande qui déambule en short, en polo, entre les plagistes de Cabasson.
Avec, pour Sarkozy, en plus, la dimension Cécilia, puisque le couple était en train de se séparer.
Nicolas Sarkozy s'est fait prendre à son propre jeu pendant ses premières vacances aux États-Unis. Au début, il avait décidé d'être médiatisé, il se laissait prendre en photo pendant son footing, et puis au bout de 3 jours, il a donné une conférence de presse en disant aux journalistes français, aux journalistes américains, maintenant c'est fini, rentrez chez vous, je ne vous donnerai plus rien. bien fait. Alors, les journalistes français ont plutôt accepté. Les journalistes américains, c'est pas du tout dans leur culture. Donc, le lendemain, ils le prenaient en photo en train de faire du canoë-kayak avec ses amis milliardaires, avec Cecilia Sarkozy et avec Rachida Dati. Et on ne savait pas que Rachida Dati était en vacances avec eux. Et alors là, il a complètement pété les plombs, on peut le dire. Il est monté sur le bateau des journalistes américains. Il leur a enlevé la pellicule. Il était complètement fou. Et ça aurait pu faire un gros scandale aux États-Unis.
Marion.
Vacances en France, donc. Et cette petite phrase, les Français veulent que le président parte à Brégançon, mais ils ne veulent pas qu'il dépense pour redécorer Brégançon. C'était l'avertissement adressé par François Hollande à Emmanuel Macron, qui s'est pourtant offert la première polémique de son quinquennat en faisant construire la fameuse Sinorsol.
La piscine devrait être installée avant l'été à Brégançon pour les vacances du couple Macron. Un modèle hors sol, car il est impossible de creuser un bassin sur ce site classé monument historique. Le président, ce matin, en déplacement en Bretagne, fuit en tout cas la question piscine.
Bon séjour, bon déplacement à vous. Merci à vous.
Le couple Macron veut être à l'abri des paparazzi. Et la plage privée, en bas du fort, la voici, n'est pas assez isolée, explique l'Élysée.
Voilà, alors Hollande, lui, a eu l'affaire des coussins de Brégançon. C'était presque son fouquet, hein, les coussins, surtout pour lui qui se voulait un président normal, au point de partir en train dans le Sud. On voit bien que les mailles du filet se resserrent, quoi. Le moindre anecdote est sujette à polémique.
Alors on n'accepte plus rien. D'ailleurs, cette affaire des coussins, on ne sait même pas si elle a vraiment existé.
Une commande de coussins.
Voilà, c'est quelques coussins. Valérie Trierweiler dit qu'il n'y a jamais eu de coussins. François Hollande dit qu'il y en a eu. Valérie Trierweiler, elle parle de deux paravents. C'est la seule rénovation, en quelque sorte, qu'elle a fait à Brégançon. Alors qu'il faut se souvenir que toutes les premières dames, avant, que ce soit Claude Pompidou, Anne-Émone Giscard d'Estaing ou Bernadette Chirac, qui adoraient redécorer toutes les maisons de la République, elles ont refait tout Brégançon de la cave au grenier.
Il y a une solution très simple, quand même, c'est de se débarrasser de Brégançon. Il n'y a aucune raison que le président de la République ait Brégançon. Vendons-le, faisons un hôtel ou ouvrons-le pour des vacances d'enfants défavorisés, ça sera plus utile. Il y a assez de résidences pour le président de la République. Je rappelle que le président s'est arrogé la lanterne à Versailles,
qui normalement
était au Premier ministre. Il doit y encore y avoir Souzy Labriche, à moins que ça ait été vendu.
C'est fini, Souzy Labriche, depuis longtemps. Bon.
J'ai appris l'existence.
Il y a la plage à Versailles, alors donc il
voilà,
a,
c'est
il a,
ça, il faut quand même un lieu.
Si le président de la République veut aller à la plage, il se loue une chambre d'hôtel ou un appartement à la plage. Alors il y a des conditions de sécurité à faire respecter. Mais à Marseille, le premier été, Macron, c'était loué une maison ou c'était fait prêter une maison pas loin de la préfecture.
C'était un ami préfet.
Pardon, moi j'ai le souvenir de Sarkozy louant une maison dans le sud-ouest. C'est un cauchemar pour des dizaines de milliers d'habitants à la ronde à cause des mesures de sécurité.
Nicolas Sarkozy, le problème Brégançon.
Si Emmanuel Macron choisit Brégançon, c'est justement parce que Brégançon, c'est pas très joli. Vous savez, les fenêtres sont petites, c'est une ancienne caserne militaire, c'est vraiment pas le lieu de villégiature rêvé. S'il y va, c'est que c'est plus simple à sécuriser, justement, c'est le plus simple.
Alors le premier à avoir mis en scène ses vacances à Brégançon, c'était Pompidou.
C'était une ambiance détendue, une ambiance de vacances. On a alors laissé de côté les problèmes politiques pour parler vacances.
Est-ce que vous assistez à des concerts, à des manifestations
ici
aux alentours, oui.
Non, on n'est pas sorti.
Pas du tout.
Non, vraiment.
Est-ce que vous avez commencé la lecture du livre sur l'histoire de Brégançon?
Oui, j'ai commencé. Mais je trouve qu'il ne s'est pas passé assez de choses.
Voilà, alors Giscard, lui, déplorait qu'il n'y ait pas assez de tennis. Il allait chez ses voisins, qui étaient propriétaires, eux, du château de Brégançon. Il y était si à l'aise, d'ailleurs, qu'il y allait sans les prévenir. Et les voisins les laissaient gagner.
Oui, c'était ça. Et un jour, ils lui ont dit, non, c'est pas possible, on part en week-end pour le 15 août, vous pouvez pas venir. Il a dit, mais comment ça, vous me refusez de venir sur votre cours de tennis, je suis le président de la République. Et il comprenait pas pourquoi, parce que Valéry Giscard d'Estaing adorait faire du tennis, et à Brégançon, il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y avait pas de piscine non plus, parce que ça fait quelques décennies déjà qu'on parle d'installer une piscine à Brégançon. Et finalement, c'est Emmanuel Macron qui a installé cette piscine.
Hors sol.
Et les vacances, de toute manière, à Brégançon, même très brèves et beaucoup plus bref qu'avant, elle donne l'occasion, bien sûr, aux photographes d'essayer de chasser la photo. Et les présidents le savent bien, donc ils sont là souvent en tenue décontractée, voire même en maillot de bain. Le premier qui se montre en maillot de bain, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il était assez content de son physique.
Oui, oui, c'est ça, vraiment en maillot de bain. Parce que Pompidou, il y a quelques photos où il est en maillot de bain, mais avec un pull. Ouais. Mais Valéry Giscard d'Estaing, lui, il montre tout. Hein, vous voyez,
mais on sent le gars qui a fait des rallyes. Hein. On sent le gars qui a fait des rallyes.
Mais on voit encore aujourd'hui Emmanuel Macron sur son jet ski. Alors, à chaque fois, il contracte le muscle. Bah, à chaque fois. Donc on voit que le corps du président est un enjeu en ce moment.
Regardez la photo, ce sera mieux qu'en le racontant. Vous allez montrer la photo. Voilà. Il sait que la photo va être montrée et remontrée. D'ailleurs, le Sunday Times la met en une avec une légende. Emmanuel Macron tente de résoudre tous les problèmes du monde assis sur son jet ski. C'est de l'ironie toute britannique, ça.
C'est de l'ironie britannique. Néanmoins, le choix du jet ski pour Emmanuel Macron n'est pas un choix idiot, parce que c'est un sport moderne. Pas très écolo, mais quand même un sport dans la nature. Qui va plaire aux jeunes? C'est un peu le McFly et Carlito version sport nautique, quand même, le jet ski. C'est plus moderne que le ski nautique qui a pris un petit coup de vieux ou que la planche à voile qui date de ma jeunesse à moi.
Et ça change d'Angela Merkel qui fait ses randonnées tous les ans dans la même montagne. Elle descend dans le même hôtel, elle porte la même chemise à carreaux. Donc c'est pas du tout la même image qu'Emmanuel Macron sur son jet ski.
Si on remonte dans le temps, août 95, Jacques Chirac, lui, a une certaine facilité à se mêler au bon peuple. Il a même un vrai goût pour cela. Mais alors, en revanche, on sent bien qu'il se fout un peu de ses tenues.
Vue imprenable sur le fort de Brégançon, havre de tranquillité pour président en vacances. Loin des regards, c'est une autre affaire. C'est vrai qu'il y a les détours obligés quasi officiels. Jacques Chirac s'y est prêté une fois le week-end dernier en venant se mêler à la petite foule massée autour de l'église de Bormes-les-Mimosas à l'heure des vêpres. Mais d'autres en voulaient plus. Surprendre Jacques Chirac au naturel, dans la tenue estivale de Monsieur Tout-le-Monde, enfin presque. Ainsi apparaît le président en toute décontraction, pour le haut et jusqu'aux Bermudas au moins. En bas, on est resté plus strict.
On se dit quand même, quand on s'arrête sur cette photo avec le bas, comme dit le commentateur, que Claude Chirac a dû piquer une colère en voyant son père avec les soquettes et les godasses de ville, non?
C'était difficile de fabriquer quelque chose avec Jacques Chirac. Rappelez-vous le Walkman, la casquette, les baskets pour accueillir Madonna quelques années avant d'être élu à l'Élysée. C'était tout aussi ridicule. Il n'a jamais su vraiment faire l'esthétique de la communication.
Et puis un jour, il est même sorti en tenue d'Adam.
Alors ça, c'est encore la grande légende aussi, parce qu'on dit qu'en fait, ces photos n'ont jamais existé, alors que donc la grande histoire, ce sont les photos de Jacques Chirac tout nu au balcon de Brégançon.
Ce sont des photographes qui ont dit qu'ils les avaient prises.
Voilà, et qu'ils les ont proposées à plusieurs magazines, dont Paris Match, par exemple. Personne n'a voulu les publier. Quelques magazines étrangers ont voulu payer très cher pour les publier, mais les banques d'images françaises ont refusé. Et maintenant, moi, il y a un ancien directeur de Paris Match qui m'a dit que ces photos n'avaient jamais existé.
Jacques Chirac avait lui-même, à mon avis, accrédité un peu la légende en racontant qu'il avait voulu sortir sur le balcon parce qu'un navire croisait au loin avec un pavillon étranger. Il avait voulu voir avec une paire de jumelles et qu'il n'avait pas eu le temps de se rhabiller, qu'il était donc tout nu sur son balcon.
Alors, il paraît qu'il voulait observer. Alors, il y avait le bateau de Schumacher qui était juste à côté, et Schumacher recevait toujours de très jolies filles et Jacques Chirac les observait avec sa jumelle.
La réalité dépasse la fiction.
cet été, la pandémie va obliger le président à être très vigilant et très peu en vacances.
Bien sûr, il lui faut absolument rester sur le territoire français, prendre très peu de vacances. Il y aura une rentrée politique forcément un peu précoce.
À cause de la campagne.
À cause de l'échéance 2022. Et on verra bien, là, dans quelques jours, si des régionales accouchent des présidentiables. Et la droite et la gauche vont devoir choisir leur champion assez vite, à la sortie de l'automne. Donc, il n'y aura pas vraiment
trop
de vacances. Et la rentrée sera très vite là.
Ça fait partie de ces tyrannies que nous impose l'épidémie. C'est votre ouvrage, je le rappelle, Christophe Barbier. C'est aux éditions Fayard. L'Élysée à la plage, dans l'intimité de nos présidents en vacances. C'est signé Pierrick Jay. Et c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à tous les deux. Christophe Barbier, si je vous dis Nicolas Sarkozy et François Hollande vont oublier qu'ils ont toujours été adversaires, concurrents, rivaux. Ils vont enterrer l'âge de guerre pour mener un combat commun, battre Marine Le Pen aux prochaines élections présidentielles. Vous me dites quoi? Info, intox,
pure vous
fiction?
Dis, moi président, ça n'arrivera jamais. Moi président, c'est de l'intox. Moi président, ça doit être un film très drôle, il faut y aller parce que Grégory Gadebois et Jean Dujardin
sont formidables, mais pas que, c'est de la pure fiction. Vous avez évidemment raison, comme toujours, imaginée par Anne Fontaine, une parodie savoureuse. Avec à droite, dans la peau de Nicolas Sarkozy, un exceptionnel Jean Dujardin qui vit en couple avec une chanteuse lyrique irrésistible Doria Tillier. À gauche, l'excellent Grégory Gadebois pour camper un François Hollande très colérique, mais bien accompagné d'une first lady vétérinaire, l'impeccable Pascal Arbillot.
S'il vous plaît, monsieur le président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche.
Quel président?
Pas vous.
Moi.
Je sais pas ce que vous avez dit à François, mais depuis que vous vous êtes parlé, il n'est plus le même homme. On peut même dire qu'il est en pleine rechute. De quoi vous avez parlé tous les deux?
De quoi on a parlé?
Oui, tous les deux.
Macron, ça vous fait plus rien? La trahison, l'humiliation, tout ça?
Rien du tout. Pas ça.
Et si t'arrives? Me dis pas que vous avez reparlé de Macron.
Mais pas du tout.
On commence à créer un parti. Je sais pas, la France pour toujours, par exemple.
Bonjour à tous.
On fait la campagne, et on est élu. Et la démocratie est sauvée, voilà, en gros.
Depuis que je suis ici, je suis assaillie par des mots et des notes qui me viennent de tous les côtés. C'est comme un bombardement permanent.
Vous êtes inspiré, quoi.
Oui, je comprends pas, je croyais que t'étais guéri.
J'étais président de la République, c'est pas une maladie. C'est un honneur suprême et une bénédiction des dieux.
Ben, ça se discute, hein.
Non, ça se discute pas.
Il est vraiment bon, ce pâté. C'est Isabelle qui fait ça?
Les femmes au fourneau, ça marche peut-être encore dans votre 16e arrondissement, mais dans la vraie vie, on n'en est plus là. Quoi.
Dans mon 16e arrondissement, comme vous dites, c'est ni homme ni femme, c'est traiteur, déjà.
Et en plus, c'était génial, votre truc du président normal. Ça veut absolument rien dire. Et en même temps, c'est évident. C'est pas resté évident très longtemps.
Nous avons déjà consulté nos amis d'Europe et Clole. D'Europe et Clole. J'arrive jamais avec leur nom à la con.
Europe.
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 Écologie.
Écologie.
Europe, écologie, les verts.
Europe, écologie.
Vous me faites exprès.
Non.
Hier, bitte.
Jetzt bist du mir. Zu mir.
Pascal Arbillot, Doria Tillier, Grégory Cadebois et Jean Dujardin, bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Ravi de vous recevoir pour évoquer ce très savoureux président qui est une formidable réussite. Moi, j'ai adoré, j'ai rigolé et surtout, j'ai réfléchi un peu parce que c'est une excellente parodie du rapport au pouvoir et à l'addiction qu'il semble induire chez ses responsables politiques. Toute ressemblance avec des personnes existantes n'est purement pas fortuite, sauf que vous mesurez 1m82, Jean.
Rien à voir. Non, mais c'est effectivement. Ce n'est pas ça qui nous intéressait d'ailleurs. Ce n'est pas tant ni l'imitation, ni c'est l'évocation, effectivement. Je m'amuse à dire que c'est plus un détournement, finalement.
Ouais.
Je prends la statue et puis j'en fais ce que je veux. Voilà. Mais c'est un peu comme OSS, c'est pareil. On prend une figure comme Sean Connery et on la détourne. Ben là, il y a tout pour quand on voit ces deux personnages. Forcément.
Oui, vous n'avez pas cherché la ressemblance physique.
Ça serait même très gênant, je pense.
Mais il y a l'attitude, il y a le sourire, il y a la voix. Dès le bonjour, moi j'y étais. Hein. J'entendais Nicolas Sarkozy. Mais
en fait, je l'ai vu dans votre émission, ce que je regardais un peu, je faisais un peu mes courses. Et c'est assez intéressant comme. À décrypter le personnage de Nicolas Sarkozy. Il a à la fois cette espèce de verticalité quand il parle, il assoit les choses et il vous regarde, et puis il y a cette toute petite voix qui arrive à se faire plaindre, à se dire « Je suis comme vous. Je suis comme vous. Voilà. Je suis comme vous, mais je suis président. Et je suis comme vous. » Donc ça permet de faire des balances comme ça et de s'amuser, et surtout avec le texte et les partenaires géniaux.
Formidable. Puis cette séquence d'Europe écologie le vert, c'est imprononçable.
Je n'arrive toujours pas à le dire. Essayez, je me suis auto-planté maintenant, donc je fais Europe écologie les verts.
Et la patience jusqu'à une certaine limite de François Hollande alias Grégory Gadebois, c'est formidable. Vous êtes François Hollande sans être lui. Comment on fait pour être quelqu'un sans l'être? C'est quand même assez miraculeux, quoi.
Mais j'ai réalisé après, en fait, François-Nicolas, ça me faisait penser à quelque chose, mais j'avais pas vu que c'était ça au départ. Mais oui, c'était ça.
Par la posture, je trouve la position. En tout cas, il l'a joué physiquement, moi je le revoyais.
Ouais. Je me tenais très droit et ouais. J'essayais de.
Presque raide.
Ouais. Très droit. Et puis,
tout le temps, oui.
Et puis un peu. Toujours en avance.
Ouais. Ouais.
Toujours en avance sur ce que l'autre va dire, toujours en
anticipation.
Oui, très vif d'esprit. C'était la composition pour moi.
Très réussi, vraiment. Et on s'est amusé à faire un petit montage de vos interprétations respectives face aux modèles originaux. Et bien, c'est assez payant.
Mes chers compatriotes, j'ai la grande joie de vous annoncer mon retour.
On te dit de lâcher tes coups, mais dans les limites du raisonnable.
Pas parce que François est modéré qu'il faut laisser tomber. Alors allez-y.
Qu'est-ce que vous voulez dire, modéré?
Indécis, pusillanime, timoré, frileux, inconsistant, modéré!
C'est
C'est toujours la même chose avec vous.
Mon gouvernement, ma présidence, on sait comment vous fonctionnez.
Alors ça, je n'ai jamais fait ça.
Si, vous l'avez fait.
Je n'ai jamais fait ça.
Si, vous l'avez fait.
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
C'est vrai.
Ce n'est pas vrai.
Vous étiez troublé quand même quand vous aviez face à vous Nicolas Dujardin et François Gadebois, non?
Ah bah oui, très. Non mais c'est vrai que c'était très drôle. C'était dur de garder son sérieux.
C'est vrai.
D'ailleurs, il faut dire en particulier avec Jean qui a tendance à passer une certaine heure. le matin, ça va.
Passer midi.
Ah ouais, bientôt.
Ah ouais,
quoi.
Ça vient très tôt. Ouais.
Et puis après, les fous rires démarrent et c'est difficile de garder la prise.
C'est vrai qu'on sent que vous avez tous les deux la connerie. La séance photo est un moment où on sent que ça a dû.
Ouais, ouais, d'ailleurs, on frise avec le réel, là. Ouais, ouais,
oui, oui.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Oui, il y a un fou rire qui semble très ouais. spontané. Jean a fait ses courses en regardant notamment C'est à vous. Vous aussi, vous vous êtes empilé des heures et des heures de discours, d'interventions, de débats de François.
Oui, quelques-unes. Oui, oui, oui. Mais voler des mots, des phrases entières, j'aimais bien reprendre des choses comme ça, oui.
Le mot président, par exemple, il fallait. Quoi qu'il n'apparaît pas dans le film, le
non.
mot président.
Non.
Non.
Non, c'était des plutôt comme petits... des petites choses de. En tout cas, si vous l'avez dit, voilà.
Ah oui.
Si vous l'avez dit. Il y a des souffrainements tendres aussi un peu.
Souffrainements, cette langue si particulière quand même. Avec quelques fautes de français, évidemment, oui. toujours ouais. bienvenue.
Ils ne savent même pas qui je m'appelle. Ouais. Ouais, celle-là, ouais, c'est-à-dire j'y vais pas. Oh. Mais c'est ça qui est sympa en fait avec le oui. film, c'est que le film l'accepte. C'est évidemment ouais, invraisemblable c'est... que ces deux mecs se retrouvent entre un Paris 16 qui arrive en Corrèze et en même temps c'est tout à fait crédible. Enfin, moi je m'amuse à dire que c'est comme un... C'est comme une espèce de laboratoire. On aurait mis un cochon d'Inde et une souris, puis on regarde un petit peu ce qui se passe.
Et bien finalement, et, ouais, ils finissent par s'allier, quoi.
Ouais, et ça pourrait, presque.
Qui est le cochon d'Inde?
Alors justement.
Alors Doria, Pascal, vous n'êtes pas en reste. Vous êtes épatante dans le film. Vos personnages de prime d'abord pourraient passer pour des femmes d'eux, sauf que, pas du tout, vous êtes archi-indépendante et vous êtes, à votre manière, des femmes de pouvoir extraits.
Vous savez que j'ai voté pour vous en 2012?
Non, c'est vrai?
Mais comme je vous dis, aux deux tours même, hein. J'ai voté pour vous aux deux tours.
Oui, mais il faut dire aussi qu'on ne se connaissait pas à l'époque, c'est vrai.
Ça n'aurait rien changé du tout, j'aurais quand même voté pour François sans hésiter.
Je te remercie.
Bah, ça n'a rien à voir avec toi, mon zèbre.
Mon zèbre? C'est trop mignon, ça, mon zèbre.
Ma famille est de droite depuis les croisades, mais moi j'ai toujours été de gauche. C'est comme ça. Je suis de gauche parce que... Je pourrais pas vous dire.
Ah, le dis pas, là.
Oh. Non, mais ça s'impose de l'intérieur, j'ai pas d'explication.
C'est souvent comme ça avec les convictions.
Alors Doria, vous jouez la femme de Nicolas Sarkozy, que vous appelez mon zèbre, donc Nathalie, chanteuse lyrique. Carla Bruni, elle, appelle Nicolas Sarkozy son triton, donc rien à voir.
Ah bon, je savais même pas.
Eh bien, je vous le dis. Est-ce qu'elle a pu vous inspirer ou pas du tout?
Franchement, non. Je pense que la seule chose qui lie ces deux personnages, enfin, ce personnage et Carla Bruni, c'est peut-être quelque chose d'assez optimiste, d'assez rêveur, comme ça, d'assez poétique, disons. Voilà.
Et vous êtes extraordinaire en chanteuse lyrique.
Oui, je suis d'accord.
On dirait que vous avez fait ça toute votre vie.
Ben, j'ai adoré, c'est très
sent.
Et c'est très agréable parce qu'on est en playback et puis j'avais donc cette chanteuse lyrique qui faisait ma voix. Mais...
Quoi? C'est pas vous qui chantez? Comment?
Et enfin, il y a un moment où je chante vraiment.
Oui, à la guitare, justement.
Et, mais en tout cas, c'est génial d'avoir l'impression de chanter, d'avoir cette voix qui sort, même si elle ne sortait pas de moi. J'avais ce sentiment et c'était très...
De puissance.
Ouais.
Alors vous, Pascal, vous êtes une première dame, éloignée des vraies compagnes de François Hollande, ni journaliste, ni comédienne. Vous êtes vétérinaire. Vous avez toujours un temps d'avance sur les anciens présidents. Une femme présidente, vous pensez que ça changerait beaucoup de choses?
En tout cas, ce serait bienvenu en France. Ça n'a jamais été le cas. Alors après, quelle femme? C'est ça le problème. C'est tout le problème.
C'est bien posé.
Mais votre personnage, il les surplombe, les deux
oui.
présidents.
C'est pas qu'elle les surplombe, c'est qu'elle est dans la vie normale. Elle a un temps d'avance parce qu'elle s'occupe de tous les animaux. En tant que vétérinaire, elle a peut-être des animaux politiques.
Elle a cette intuition-là.
Et puis c'est comme les femmes, souvent, on est comme des pitis. On voit les hommes, on voit les enfants gigoter, on voit la mère qu'ils ont eue ou qu'ils n'ont pas eue. On les voit essayer de vivre et nous, on est peut-être plus dans le cambouis. Et elle l'est manifestement.
On aime bien vous voir en pitié toutes les deux.
Oui, on est des pitié, c'est
ce que vous
bien.
Avez dit.
Ouais.
Vous savez si les deux présidents et leur première dame ont vu le film déjà?
Alors, je sais que François Hollande l'a vu.
Ouais.
Il était là ce jour-là avec Grégory.
Ah oui, ouais. Une rencontre.
Ouais. C'était génial.
C'est vrai.
C'est très bien passé, mais il faut qu'il vous en parle, lui.
Ah bah oui, on va lui demander.
Il a adoré, carrément.
Ouais, il a adoré, vraiment.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, François Hollande?
Je crois qu'on était tombé d'accord que s'il avait besoin que je le remplace dans un meeting, et qu'il viendrait jouer au théâtre à main place. On inverserait.
C'est... Ah ouais, c'est ambitieux, ça.
Nicolas Sarkozy avait dit, avant même de voir le film, qu'il était très content que ce soit vous, Jean, qui l'interprétiez, qui préférait à Denis Podalydès.
Podalydès.
Oui.
Mais je ne crois pas qu'il ait vu. Je crois pas, pas encore, il doit ouais. le voir.
Vous n'avez pas eu d'appel de lui?
Non, quelques menaces, mais pas.
Mais sur le plateau de 6 à la maison, avec Babette et Patrick, François Hollande avait évoqué le tournage et son dialogue avec Anne Fontaine, votre réalisatrice scénariste.
Je connais Gadebois depuis longtemps, j'aime beaucoup cet acteur, et j'ai trouvé qu'il ne cherchait pas à me ressembler précisément. Il cherchait à composer un personnage qui pouvait avoir des apparences différentes des miennes, mais un contenu assez proche. Et donc ce film a été pour partie tourné en Corrèze. Gadebois s'y est réfugié, si je puis dire. En tout cas, il y est retourné, puisqu'il en était l'élu. Anne Fontaine, la réalisatrice, m'avait prévenu qu'elle tournait en Corrèze et donc m'avait donné le scénario. Et je lui ai dit, le seul conseil que je lui ai donné, je n'avais pas lu du tout l'histoire, je lui ai dit, sortez votre film au mois de mai prochain, pas plus tard.
Bon, il sort un peu plus tôt. Est-ce qu'il a plu quand il est venu sur le tournage?
Denis Podalydès, qui était là, disait que vous étiez excellent en Nicolas Sarkozy.
La part de Denis.
Reconnaissable, mais pas insistant. Il est tout à fait lui-même, mais on le reconnaît. Voilà, je le cite parce que c'est un sacré compliment venant de Denis.
Clairement, oui. Puis qu'il avait, il l'avait déjà incarné, effectivement. Ouais. Oui. Ça a été les discussions très tôt d'ailleurs avec Anne, savoir où était le curseur. Est-ce que je peux un peu bouger? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce qu'on l'assume? Et très rapidement, on se dit, ça sera pas lui, ça sera pas moi, ça sera nous, et ça sera bien comme ça. Et surtout, c'est qu'on a des dialogues. Franchement, c'est très 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 rare d'avoir des dialogues comme
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que c'est écrit, disons. Ouais.
Je sais pas vous, mais moi, je l'ai lu.
Le scénario.
Oui. J'ai terminé à minuit. J'ai appelé. J'ai dit bon, bah, écoute, y a pas de question. C'est tellement rare ce genre de comédie.
On a pris des notes, nous. Les dialogues fonctionnent tellement bien qu'on les a pris en notes.
C'est écrit.
Je sais pas ce qu'on va en faire, mais on a les notes.
Oui, je vais faire mon petit compliment aussi, puisque il y a pas mal de films à la télé et au cinéma qui se sont approchés du sommet de l'État ces dernières années, mais je pense que c'est la meilleure comédie de pouvoir que j'ai vue depuis j'ai pas de référence, parce que tellement c'est à la fois gonflé et bien écrit, vous l'avez dit, c'est un film qui parle des hommes de pouvoir, qui les montre, et qui ne se contente pas simplement d'évoquer leur puissance, etc., qui montre ce qu'ils sont et qui montre leur addiction au pouvoir, et je trouve que ça débouche sur une réflexion qui est passionnante. Et puis aussi, l'aspect comique, c'est que c'est aussi un buddy movie. Vous êtes tous les deux, Jean et Grégory, et on va le voir dans la scène qui suit, qui est la scène de la séance de training qui dégénère quelque peu face au maire qui vous sert de sparring partner.
Vous pensez que parce que vous avez absolument tout raté chacun de votre côté, il suffit de vous mettre ensemble pour réussir quelque chose, c'est ça?
Enfin, Jean-Jacques, on te dit de lâcher tes coups, mais dans les limites du raisonnable.
Ah, pardon, excusez-moi.
Non, mais c'est très bien, au contraire, c'est très bien. Faut cogner. C'est très bien, dans les vrais débats, ça cogne. C'est pas parce que François est modéré qu'il faut laisser tomber. Alors allez-y.
Qu'est-ce que vous voulez dire, modéré?
Bah, modéré. Prudent, précautionneux, indécis, pusillanime, timoré, frileux, inconsistant, modéré.
Vous êtes bien agressif tout d'un coup, qu'est-ce qui vous arrive?
Oui, je suis agressif, ça m'arrive. Je vous prie de m'excuser. Tout le monde ne peut pas être un type normal qui bouffe du miel et qui fait le joli cœur avec les femmes mariées.
Je fais rien de spécial, vous savez. C'est pas de ma faute si je plais.
C'est ça l'idée de Jenny, c'est d'avoir imaginé que les deux précédents présidents avaient des caractères qui formeraient un duo aussi irrésistible, comique, par le contraste même qu'on voit à l'instant. La capacité d'auto-entraînement de Nicolas Sarkozy dès qu'il part sur un truc, ce que vous faites, et puis le côté placide de Hollande, mais qui n'en laisse pas passer une, et qui a effectivement une répartie qui permet d'alimenter ce duo. Ouais, c'est assez formidable.
Comme quoi c'était une bonne idée, effectivement. Ce sont des personnages de comédie, je suppose. C'est aussi des présidents, ils le sont encore. Enfin, moi, je vois, il y a toujours une espèce d'auréole autour d'eux. ça va être très très compliqué de revenir quand même de ce de même.
Oui, oui. C'est, et on voit bien à quel point il s'ennuie. Nicolas Sarkozy ne sait plus quoi faire, il déprime totalement, oui, il a une passion pour les aspirateurs.
C'est, oui, oui, c'est un, une volonté aussi de le rendre assez, assez touchant, effectivement, avec ce petit chien, il est très calé en aspirateur.
Et puis Grégory a des journées ultra remplies. Se lever, prendre un petit déjeuner, une sieste, les abeilles... L'apéro et le masque et la plume le dimanche.
Et qu'est-ce qui se fait chier?
Juste sur le côté joli cœur de Grégory Gadebois, enfin François Hollande qui fait le joli cœur auprès de la compagne de Nicolas Sarkozy dans le film. Il est séducteur, François Hollande, vous trouvez?
Oui, le personnage du film. Ah, oui. Le personnage du film. Moi, en plus, je suis vraiment... quand je joue... enfin. J'oublie que c'est faux, donc moi j'étais complètement séduite, quoi.
J'aime bien cette confession.
Ça s'appelle une déclaration, Grégory.
Mais après, je m'en souviens une fois que le tournage est terminé.
Je savais qu'elle allait dire ça.
Mais Jean, vous, très séduisant. Très séduisant. Et vous trouvez que dans la vraie vie, il est séduisant.
Oui, il a les yeux assez pétillants. Il est pas loin de la connerie.
Oui, c'est ça.
Il frise.
Il a l'œil.
Oui, il frise, bien sûr. Ouais.
Non, puis il y a des scènes, des situations de comédie qui font penser à la... Vous disiez tout à l'heure Jean Gabin de Funès, mais on pense aussi à la grande vadrouille quand on vous voit tous les deux à vélo. Il y a quelques images qui vont me recouvrir, si j'ose dire. Forcément, vous y avez pensé. C'est magnifique, quand même. Cette scène, ce côté... Ce comique de situation, c'est magnifique. Vous en faites beaucoup de vélo dans la vraie vie?
Un peu, oui. Oui,
ouais, t'en fais beaucoup.
J'en fais pas. Oui, j'en fais. J'ai découvert ça, je trouve ça formidable comme manière de faire du sport. C'est facile.
Mais ça faisait vraiment plaisir, Grégory, de vous voir, c'est ce qu'on se disait toutes et tous ici, de vous voir dans une comédie, parce qu'on ne vous a pas vu beaucoup.
Non, j'en ai jamais.
C'était même une de vos premières apparitions en comédie au cinéma. Moi, je vous avais vu au théâtre, dans Un air de famille, quand vous l'avez repris. Oui. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça, déjà... Mais quand j'ai été vous voir Un air de famille que j'avais vu dans sa première version, j'en parlais avec Jean-Pierre Bacri, qui m'a dit « Ce type est insensé, Gadebois, il sort de notre texte des trucs que j'avais jamais sortis. »
Ah, je suis très... ça me fait...
Voilà, j'avais envie de vous le dire, parce que je trouvais que c'était un sacré beau compliment.
Ah, ouais, ouais, ouais.
Mais c'est vrai que vous, dans Un air de famille, vous m'aviez scotché. Voilà.
Ça s'appelle un compliment du président et ça s'accepte.
Ah oui, oui,
Avec citation,
Jean-Pierre Bacri. L'homme qui ne se mêle pas de politique n'est pas un citoyen paisible, c'est un citoyen inutile. C'est la phrase qui conclut ce film. Et moi, j'ai bien aimé cette phrase. Bon, elle n'est pas de Nicolas Sarkozy, voilà.
Mais elle aurait pu.
Alors, avec ça, vous ne répondez jamais sérieusement aux questions.
Ah, mais ça suffit, ça me va.
Parce que c'était une pirouette.
Parce que c'est une comédie, surtout.
Parce que c'est une comédie.
D'abord une comédie. Ah, oui, une comédie.
Ah, c'est formidable. Président Anne Fontaine, ça sort le 30 juin prochain. J'ai une promo longue comme le bras, là. C'est que vous n'arrêtez pas. Il y aura aussi OSS 117 le 4 août, Alerte Rouge en Afrique Noire et 27e édition de l'opération Talent Adami Cinéma. Diffusion de 5 courts-métrages, dont le vôtre.
Ah oui, mais je savais pas que vous saviez ça.
C'est le 11 juillet sur France 2. Bah attends, c'est France Télévisions, on est au courant.
Oui.
C'est tout. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On va continuer à commenter une actualité qu'on a consacrée, on est très originaux, au président. C'est l'heure du 5 sur 5.
Et on se reverra à Cannes, de toute manière.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut Émilie.
Je suis très originale, merci.
Au sommaire ce soir.
Il faut dire quand même que la frontière est mince entre le cinéma et la politique. La preuve avec Volodymyr Zelensky qui était comédien, humoriste, acteur dans une série où il jouait d'ailleurs le rôle d'un prof devenu président du jour au lendemain.
Заступаючи на цей високий пост президента України. Беру на себе повноваження здійснювати свої президентські обов'язки на всій території України.
Sauf que ce que ne savait pas Volodymyr Zelensky à ce moment-là, c'est que ça n'allait pas être qu'un rôle de composition, puisque l'acteur est devenu dans la vraie vie le président de l'Ukraine, président qui côtoie aujourd'hui donc les grands de ce monde, dont Emmanuel Macron. La frontière entre le cinéma et la politique est mince, parce que dans les deux cas, il faut dire des choses, incarner des choses qu'on ne pense pas toujours. Certains diront mentir, mais en politique, comme au cinéma, c'est presque une compétence.
I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never.
People have got to know
whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas?
Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin.
Il ment moins bien, lui.
Oui. Ça fait ah oui, il y en a un qui ment moins bien.
C'est terrible. Bah, il n'était pas président, d'ailleurs.
Autant de rôles, là, que, qui s'offrent à vous. Hein.
Cahuzac, oui. Je crois qu'il est du 19 juin, comme moi, en plus, Cahuzac. Ouais. Je vais y penser. Moi, je le trouve pas mal en son mensonge, quand même. Ouais. Il n'a pas la langue sèche. Non, il y va. Non, il y va. Jean-Jacques Bourdin, je n'ai pas. C'est pas simple.
Ah oui?
Pas simple.
En politique, comme au cinéma, il y a la version américaine, Hollywood, les studios Universal. Ils sont forts, les Américains.
Boom! I'm not going down.
High five. That's oh, oh. You're so strong.
That I just have two more words to say. Obama out.
Bon, mais il ne suffit pas d'être américain pour avoir le style. D'autres ont beau être américains, ont beau avoir du budget sur scène, ils en font parfois un peu trop et ça ressemble à un mauvais blockbuster.
Another security. Sir! Sir, are you okay, sir? Did I walk another few feet? Sir, I hope you're okay, sir. I said, what the hell's going on?
I felt like Superman. I wanted to get back.
Voilà, entre le cinéma américain et le cinéma français, ce sont deux mondes. Vous, Jean, vous avez côtoyé les deux. Il a fallu conquérir Hollywood, faire face, montrer que vous étiez solide, que vous aviez de la poigne, comme quand Emmanuel Macron a tenu la poignée de main de Donald Trump face aux caméras, une vraie scène de théâtre. Emmanuel Macron a quand même un avantage puisqu'il a fait beaucoup de théâtre quand il était jeune et il n'a pas oublié ses bases. La première, c'est se projeter, planter le décor, se mettre dans la peau du personnage.
Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes.
Ouais, très concrètes, d'ailleurs on retrousse les manches, on a les cheveux ébouriffés quand on parle de Robinson. Ce sens de la scène, c'est ce qui l'a aidé sans doute à être président, ça se voit, le sens du rythme, cette manière de regarder droit dans les yeux, de faire des grands gestes pour occuper l'espace et puis porter la voix, voire casser la voix.
Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Putain.
Ah, vous le tenez aussi, hein, là. Ouais.
J'avais pensé à lui déjà dans le Retour du héros. À un moment, je faisais un « Vive la France !» Mais un peu parti trop haut. Parti beaucoup trop haut.
Bon, après, il y a ceux qui vous donnent la réplique. Vous voulez dire quelque
non,
chose?
Non, pas du tout, pas du tout.
Si.
Non, absolument pas. Non.
Si, si.
Non, c'est vous qui avez dit qu'il avait pris un coup de vieux.
Ah oui.
Ah non, on n'a rien dit de ça.
Vous de le dire.
Absolument pas. Non, il a changé. On disait que le pouvoir, ça change les hommes.
Oui, c'est vrai.
Ça les use parfois.
Bah, les années aussi.
Oui, nous aussi. Oui, voilà.
Bon, après, il y a ceux qui vous donnent la réplique qui peuvent influer sur votre jeu. J'ai l'impression qu'un acteur, qu'un politique paraît toujours plus sincère face à une comédienne ou une politique dont le jeu est un peu plus mauvais.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre parti.
Ils sont sur les réseaux sociaux.
Je parle du parti de l'extrême droite.
Les envahisseurs.
Je ne sais pas si ça, c'est...
Oui, c'est comme quand on est mal sur un plateau, mais en tant que comédien, quand on est en traque, on sent ça. En fait. Du coup, on plonge, on va encore plus loin, et c'est là où c'est terrible. En il fait. Faut arrêter tout de suite.
On fait trop d'effets.
C'est l'agonie.
Oui. En revanche, Emmanuel Macron a beau avoir fait du théâtre, ça n'empêche pas de faire parfois des erreurs de débutant. Ne jamais imiter un acteur, même si vous l'admirez, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'ennemi, l'imitation pure, et ça se voit.
J'ai encore comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want?
Me to go back to my plane and go back to France, is that what you want? Then let it, let them go.
We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go out, outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody, nobody has to provoke, nobody, okay?
Voilà, mauvaise méthode.
On a envie de les revoir jouer hein, au cinéma, ces scènes-là. C'est vrai, hein? Oui. Parce que tout le monde les connaît par cœur. On les reconnaîtrait immédiatement et elles pourraient être réinterprétées, rejouées. Non, ça ne vous inspire pas?
Ah si,
non, mais je pense après...
Pardon. Vas-y, vas-y.
Non, mais que de rejouer des scènes déjà existantes, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est bon, autant voir l'original.
Oui.
Ce qui est cool, c'est d'imaginer justement, par exemple, dans le film d'Anne, ces dialogues-là, d'imaginer ce qui se passe justement hors caméra.
Après hors caméra. Par exemple, c'est très intelligent, on ne voit pas le renoncement de François Hollande à, à se représenter à nouveau. En revanche, il est en train de le regarder et il fait croire qu'il regarde un film. Ouais. Ouais, non, je regarde un mauvais film. Donc c'est ça qui est très intelligent, effectivement, c'est d'imaginer ce qui se passe avant, en dehors, avant, côté. Après, à côté. Merci, Émilie, pour cette spéciale 5 sur 5. On termine avec Bertrand Chameroy, le speaker.
Bonsoir.
Salut Bertrand.
Bonsoir Bertrand.
Ne me dites pas que vous nous proposez une spéciale président.
Évidemment, non, originalité maximum, la lourdeur jusqu'au bout. Grosse pression. Je suis cerné de président hein, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Pierre, président du Festival
t'as
de Cannes.
Raison, t'as raison.
Et puis Babette, la présidente de mon cœur.
Oh là là là.
Ouais. Bah, en fin de saison, c'est important de passer des messages comme ça.
C'est les pas présidents, moi qui décide.
C'est ma grande passion. Mais Doria aussi, évidemment. Mais après, je vais avoir des problèmes à la maison. Les présidents, c'est ma grande passion.
On est trois et pas être président.
Écoutez.
Le gars, il va faire une réclamation, c'est quoi. C'est pas le moment.
Les présidents qui sont donc ma grande passion. Depuis tout petit, je regarde tous leurs discours pour en faire des montages de mauvaise foi. Vous en parliez tout à l'heure. François Hollande était venu dans 6 à la maison et à cette occasion, j'avais diffusé Face à lui. Parce que je n'ai peur de rien, ni des contrôles fiscaux, ni des coups de pression. Je suis un dingue. J'avais diffusé un florilège de son quinquennat et voici ce qu'il avait déclaré à la fin de la chronique.
C'était
merci
pas
d'avoir retrouvé toutes ces images qui contribuent
à nourrir la légende.
Et ma légende.
De lunettes, non?
Oui, il y a beaucoup de buée entre le début et la fin de la chronique. Il avait eu un petit coup de chaud. Oui, il parle de légende. Et quelle légende! François Hollande, c'est avant tout une totale maîtrise de l'anglais.
You wait for that the people, the world will act for you. You, be proud of you because you can be do what we want to do.
And I will speak in French. Because I am obliged, to do that.
Oui, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Mais dans le genre, Nicolas Sarkozy est pas mal non plus.
Call me Sarkozy, the American. Among those reasons, there is that what they say. The fact that I am a man of action.
Ouais, c'est pas mal.
Jean, ça va trop loin, là. Je ne fallait pas faire ça.
Je peux pas rire de ça, moi. Moi, je suis pire que ça.
Non.
Ouais. Trop français, comme eux.
Ben oui. Ouais. Être président, c'est aussi voyager. Et pendant 5 ans, François Hollande n'a pas arrêté de bourlinguer, y compris dans des pays dont nous ignorions l'existence.
Long life the United States. Ici, en Nouvelle-Calédonie, vive le Royaume-Uni, grâce aux Outre-mer. La situation au Moyen-Orient que le président de Madagascar soit parmi nous, parce que Madagascar a été longtemps écarté.
Oh, ce rayonnement à l'international.
Et tout ça a été diffusé devant lui.
Bien sûr.
Et on hurlait de rire pareil.
Après, vous vous étonnez qu'il ait de la buée.
Mais moi, je croyais que vous nous le passiez là. J'avais pas compris que vous lui aviez montré ces images.
Ah, mais bien sûr. Mais moi,
vous
je suis un dingue,
Doria.
Bien sûr.
Ah, mais il l'a dit au début, vous étiez où, Doria?
J'étais perdue.
Être président, c'est également prononcer des discours, énormément de discours, et à force d'enchaîner des prises de parole, arrive le moment où on trébuche.
France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs.
La taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe.
Je le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Okay.
Bon, les lapsus, ça arrive à tout le monde. Et puis là, on comprenait ce qu'il voulait dire, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Je voudrais leur dire
qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
Pardon. Des années plus tard, le mystère plane toujours sur le sens de cette phrase.
On va faire un dessin. Oh,
Exercice que celui des discours. Parfois, on ne sait plus trop quoi raconter. Résultat, on enfonce des portes ouvertes.
Ce n'est pas si fréquent, un bicentenaire. La France est un pays du monde. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 1804. Quand je suis en Uruguay, je rencontre des Uruguayens. Ce qui fait la différence entre le cinéma et la réalité, c'est que le cinéma n'est pas la réalité.
C'est bien vu, c'est bien vu. Mais la meilleure restera à jamais cette phrase de Nicolas Sarkozy.
Déjà, mourir, c'est pas facile.
Il a pas tort, il a pas tort. Mourir, c'est pas facile.
Oh, il y a rien sur Emmanuel Macron.
Mais on y vient, oh là, et la perche est tendue et je la récupère. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas évoquer Emmanuel Macron qui, vous l'aviez reconnu, Jean, a de faux airs d'un personnage que vous connaissez très bien et qu'on retrouvera au cinéma le 4 août prochain. Petit coup de promo, OSS 117. Regardez, c'est une vraie photo d'Emmanuel Macron. Franchement, c'est à se demander s'il ne fait pas exprès.
Qu'est-ce que vous faites là?
Je porte vos valises, c'est mon travail.
Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés?
Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso.
Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et ils sont susceptibles et il faut prendre des gants.
Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation.
Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu.
Et le Kwasa-Kwasa pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Et donc il y en a qui font passer des cigarettes.
Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein.
Oui, c'est vrai.
Habile.
C'est dingue. Vous êtes partout en fait.
Je suis désolé.
Ah non, mais
un peu cumulard, oui, oui.
Non, mais c'est dingue, c'est vous qui contrôlez tout en fait.
Ça me fait plaisir. Là.
Ben, c'est aussi drôle les vrais que les faux, les vrais présidents que ceux de cinéma imaginés par Anne Fontaine, que vous incarnez Grégory Gardebois, Jean Dujardin, avec les formidables Doria Tillier et Pascal Arbillot. Une revanche un peu des premières dames. Hein. Elles prennent leur revanche, les premières dames, dans ce film. Président, ça sort le 30 juin prochain. Et OSS 117 qui sort le 4 août prochain, alerte rouge, en Afrique noire. Merci beaucoup à tous les quatre.
Merci à vous.
Merci d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, un ancien président. Ah, mais ancien président du Conseil constitutionnel de l'Assemblée nationale qui met en scène sa première pièce de théâtre. Ces femmes qui ont réveillé la France. Jean-Louis Debré est entouré de Marie Drucker, Linda Hardy qui nous donne des conseils pour être en forme cet été. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous. Shine.